Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il y a eu des choses que j'aurais pu éviter, par exemple, conduire sans permis, même si je pensais que j'avais le droit, mais...
C'est la deux chevaux avec la Ferrari.
Il lui a mis une telle pression en parlant de Ferrari. Quelquefois, c'est dur à arriver quand les bolides sont du côté de Lyon.
On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit, l'after l'émission qui dit tout haut, c'est que le monde du football pense tout. Bah, la Ligue des Champions au programme ce soir, plus l'actu du jour, on va parler de Lyon, on va parler de Paris, parce qu'il s'est passé des choses aujourd'hui, on a des révélations à vous faire, comme souvent dans l'after. Real City, vous avez suivi le match aller, demi-finale de Ligue des Champions à partout, on va en parler avec une drôle de dame dans quelques instants, et avec Daniel Riolo qui est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Kevin Diaz est resté également, salut Kevin.
Salut à tous.
Le 32-16 est ouvert pour tous ces sujets, n'hésitez pas à nous appeler, le hashtag RMCLV est disponible sur Twitter, plus Direct Studio, notre messagerie à nous, disponible sur nos applis RMC et RMC Sport. N'hésitez pas à l'utiliser également. Voilà, message qui concerne notamment le Real et Benzema. On va en parler dans quelques instants. N'hésitez pas à nous appeler. On va se faire 3 points quand même, les gars, sur ce match, non ? Ça vaut le coup. Demi-finale à la Ligue des Champions, c'est pas rien.
Très beau match.
Très beau match, en effet. C'est parti, jingle.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Kevin, quels sont ces 3 points ?
Le premier point, c'est le très très bon match, je trouve, du Real, qui est pas au mieux au championnat, mais quand même cette équipe, on peut dire ce qu'on veut. Je sais pas si c'est paranormal justement, mais en Ligue des Champions, ils sont toujours exceptionnels, et ils sont toujours au niveau. En deux, c'est Manchester City qui a fait une belle première demi-heure, mais qui ensuite, je trouve, a été décevante. Et je vais demander à Julien Laurence, mais pourquoi Guardiola ne fait pas de changement dans ce genre de match ? C'est quand même surprenant. Et en trois, c'est quand même parler de, pour moi, celui qui est aujourd'hui à l'instant T le meilleur attaquant du monde, parce que Vinicius, ce qu'il fait avec un ballon, c'est quand même assez impressionnant, et sa trajectoire est exceptionnelle.
Daniel,
mon point 1, c'est un match passionnant mais pas toujours flamboyant. On pouvait s'attendre à mieux, parce que le standard de ces deux équipes là c'est quand même encore au-dessus. On peut même être exigeant avec les meilleurs, mais attention, c'était quand même passionnant. Le point 2, c'est des buts qui ont été marqués dans les temps faibles des deux équipes, une sorte de paradoxe. Et le troisième, c'est que oui, c'est un match qui est évidemment toujours très très ouvert, mais qui me donne quand même l'impression que pour taper ce Real, il faudra vraiment qu'il soit mort dans le caniveau, achevé 2-0 à la 92e, pour que je me mette à croire que vraiment City peut sortir ce Real de la Ligue des Champions. Ça se trouve, ils les sortiront de façon nette, j'en sais rien. Mais l'impression que j'ai après ce match-là, ça rejoint un peu ce que disait Kevin sur la façon qu'ils ont de se transcender dans cette compétition, qu'il faudra vraiment les achever, mais définitivement, pour les sortir, tant leur emprise psychologique est grande.
23h, vous écoutez RMC. On est également sur Twitch, je le signale, sur la chaîne RMC Sport, si vous voulez voir notre studio.
Salut Twitch.
Si vous voulez voir Daniel, Kevin.
Ils sont tous les soirs sur Twitch, je comprends plus ça en fait.
Alors, pas le dimanche soir.
C'est soirée de gala seulement ?
Pas le dimanche soir, mais sinon tous les soirs.
Ah, d'accord. Non, parce que tu le dis pas tous les soirs. C'est pour ça que
je suis un peu perdu
quand tu dis pas les choses, tu vois.
Puis des fois, il y a une pesée de MMA qui nous coupe au milieu.
Des fois, il y a un événement.
Comment ça, une pesée de MMA ?
L'autre jour, on était sur Twitch, tout à coup, ils sont passés à la pesée de MMA.
Puis c'est revenus, ça, ouais. C'est ça les nouveaux médias.
Il y avait pas à la pesée.
Non, malheureusement. Non. Ça aurait été
lui,
sympa.
C'est pas du MMA.
Non, lui c'est du jiu-jitsu brésilien.
Ah, d'accord. Le grappling, là, c'est ça ?
Du grappling.
Ah, du grappling, ouais.
Je crois que c'est ça.
Il est fort, hein ?
Oui, il est très fort.
Il est fort. Il roule bien, toi.
Il peut te faire tomber par terre, il peut te faire tomber.
Ah oui, il roule très très bien par terre. Il met son nez dans les fesses des autres et tout.
Fred Hermel nous rejoint. Salut Fredo.
Moi qui se mord.
Hola, chicos.
Salut Fred.
Bon, Fred, du haut de ton expérience...
Il est retourné à Madrid, Fred ?
Bien sûr. Du haut de ton expérience de quasiment 40 ans de Real Madrid, quand tu as un match aller de ce type-là, est-ce que tu estimes que c'est du 50-50 ou tu te dis tout est encore faisable avec le Real ?
Je vais pencher pour le tweet de Daniel et la réflexion de Daniel. Il y a quelque chose qui psychologiquement donne un tout petit avantage au Real Madrid pour le retour.
Ah bon, un partout ?
Bah oui, parce qu'un partout, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui.
Enfin, oui, dire, avec le but à l'extérieur qui...
Ah ouais, ça veut plus... Enfin là, je veux dire, si c'était un partout avec l'ancienne règle, là, mais non, là... Enfin, et moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que ce soir, il y a deux joueurs qui ont fait leur... qui sont des nouveaux joueurs du Real Madrid et qui ont fait leur meilleur match sous le maillot blanc, c'est les défenseurs centraux, Rudiger et Alaba. Normalement, c'est Militao qui joue, hein. Mais je me demande, et Militao est suspendu, vu le niveau de Militao en ce moment, je me demande si Carlo Ancelotti, au retour, va pas conserver cette paire de défenseurs centraux qui ont été quasiment parfait ce soir.
Non mais c'était la défense quand même l'an dernier, hein, lorsqu'ils ont remporté la Ligue des Champions, puisque souvent le Brésilien jouait à droite. Mais franchement, David Alaba, on dit que le Real fait une saison moyenne en championnat, mais c'est aussi parce que Alaba a été constamment blessé. Mais oui, c'est un joueur, je ne sais pas si on se rappelle déjà face au Paris Saint-Germain à l'époque il y a 2 ans, il est exceptionnel et c'est un joueur à chaque fois qu'il est apte à jouer, mais c'est un monstre. Attends, David Alaba.
Moi je vais aller plus loin.
Il est exceptionnel.
Moi je trouve que l'ambiance générale dans l'avant-match, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, bah, y a bookmaker, observateur global, City était favori.
Moi, j'ai joué la victoire du Real, elle était à 3-3.
Moi, je veux bien que l'Europe du foot pensait, après, moi, ça vaut ce que ça vaut, ces trucs de favoris et tout ça, machin. Les premières minutes du match, s'il faut aussi en parler, ce que fait le Real, le bloc comme ça, très bas et tout, je pense même que le Bernabeu aime pas ça. C'est pas dans la culture du Real.
Mais on fait souvent ça.
Et que c'est pas le foot qu'on aime. Et ça fait oublier. Mais après, le reste du match a montré le contraire. Dans cette équipe du Real, il y a des joueurs qui sont extraordinaires. Non,
mais c'est clair.
C'est un 11 stratosphérique. Moi, si on me dit à tous les coups la charnière de City, elle est meilleure que celle du Real, je signe pas du tout là-dessus. À la barre Rudiger, c'est extraordinaire en charnière centrale.
Oui, mais les milieux de terrain. Il faut dire quelque chose, si vous me permettez. La défense du Real a été très mauvaise ces dernières semaines. C'était un vrai problème. Et en fait, c'était évident ce soir qu'il y a eu un resserrage des boulons, avec notamment Modric et Kroos qui ont beaucoup travaillé en défense dans la première demi-heure.
Oui, mais
l'idée c'était
que tout le monde se mette à bosser un petit peu plus sur un match pareil parce que culturellement le Real
se sent pas c'était bien resserré quand
je
même.
Suis d'accord avec toi, mais néanmoins si on prend la valeur des joueurs, cette charnière là quoi qu'il en soit
c'est pas le titulaire pourtant,
il y a des bons joueurs à tous les postes en fait. On peut me dire Kroos, Modric, ouais, chaque année on dit ils sont plutôt jeunes, bah oui, chaque année
non, ils sont vieux carrément.
Modric, 38 ans à la Coupe du Monde, on a vu qu'il était encore le patron de son équipe. Ouais, et là quand il faut être bon, parfois c'est un peu moins bien soir et tout, mais néanmoins il est quand même toujours là quand il faut. Valverde est un des meilleurs milieux de terrain en Europe en ce moment. Benzema, il fait les 10 et il remplit le rôle du 10 et du 9 en même temps. Vinicius, c'est probablement l'un des meilleurs attaquants du monde en ce moment.
Non, c'est le meilleur. Non, à son poste, c'est le meilleur.
Oui, si tu veux. Je suis d'accord. Je pense ce que mon propos dans sa globalité, c'est que je pense qu'on ne le dit pas assez.
Non mais c'est sûr.
Peut-être parce que le Real est largué en championnat.
Il y a un truc Daniel aussi. Tu sais pourquoi on le dit pas assez? C'est parce qu'il faut regarder le banc du Real. Tu vois, pendant le match, je regarde le banc de City.
Il est bien le banc du Real.
Non, je trouve pas. Je trouve pas par rapport à celui de City.
Ah, tu vois. Mais tu m'as pas dit dans l'absolu. Tu m'as dit par rapport à celui de City.
Je veux dire par rapport au 11 du Real.
Asensio, Lucas Vazquez.
Ouais, mais quand même par rapport au 11 du Real. T'as pas de Riyad Mahrez, t'as pas de Foden. Tu vois, t'as pas de joueurs.
Foden, Riyad Mahrez, il faudrait les faire rentrer de l'autre côté aussi.
On est d'accord, mais t'as pas de joueurs qui peuvent être clairement titulaires. Julian Alvarez, t'as quand même des joueurs énormes du côté.
Comparé à City, évidemment.
Le truc, c'est qu'au Real, peut-être pour ça qu'en championnat ça peut coincer, parce que des mecs de 38, 39 ans, 37, 38 ans plutôt, ça marche sur un match, un soir par semaine, deux fois par mois, mais sur 5, 6, 7 rendez-vous avec la Liga, la Coupe d'Espagne, c'est beaucoup plus compliqué, forcément. Donc là où le Real est en dessous de City, c'est sur l'effectif global, mais le 11 de départ ce soir, je le répète, avec un Alaba qui retrouve son meilleur niveau, en tout cas sur ce match-là, avec un Rudiger qui n'est pas mon défenseur préféré, mais qui est toujours monstrueux dans les duels, il a fait passer quand même un sale match à Haaland.
Et ça a compté ce soir. Hein.
Et ça a compté clairement. Et puis voilà. Et puis devant, t'as la qualité, t'as l'expérience. Ah oui. Voilà. Et en face, City a fait du City. Mais au final, je pense que même les Citizens étaient quand même surpris de la qualité du Real.
Mais en fait, je pense que tactiquement, Carlo Ancelotti a très bien préparé le match, mais ça, on s'en doute. C'est-à-dire qu'il y avait, j'insiste, vraiment un gros resserrage de boulons. Et puis vous allez me permettre de parler du meilleur joueur du Real ce soir, encore une fois, Eduardo Camavinga.
Il joue à deux postes, c'est vrai.
Ça fait partie de cette petite erreur qu'il fait toujours. Ouais. Il fait toujours une petite erreur par match.
Ah, mais ça, il faut pas. Mais néanmoins, tu fais bien de dire qu'il est bon. Qu'en plus, c'est marrant parce que City, au début de la rencontre, on a l'impression qu'ils se sont dit, on va jouer que du côté du jeune.
Manque de bol.
Au début, ils sont quand même beaucoup passés sur les 20 minutes où ils ont mis le Real à la rue. Mais néanmoins, enfin, à la rue dans la possession, la rue, je veux dire, dans l'emprise sur le match.
Ils l'ont repoussé.
Mais néanmoins, Camavinga, il s'est pas dégonflé. même si ça venait toujours de son côté, il a su être, répondre présent, il a résisté, il a livré un bon match au final. Et mais cette erreur, attention, cette erreur,
elle coûte cher. Vinicius,
ah oui, c'est lui.
Ça part de lui.
Ouais, non, ça part de... non, mais moi je dis qu'il a fait un gros match.
Petit retour de Modric aussi.
Eduardo Camavinga, il joue comme latéral pour défendre, mais en attaquant, il joue comme milieu de terrain, box-to-box.
Mais justement,
la chevauchée qu'il fait, c'est une chevauchée de son vrai poste.
Mais justement, en fait, aujourd'hui, si tu regardes bien, il y a énormément d'équipes, hein, notamment Roberto De Zerbi avec Brighton, mais aussi Xavi Alonso et bien sûr Manchester City qui a été encore une fois précurseur, Pep Guardiola, en faisant jouer Cancelo quasiment numéro 10 lorsque son équipe avait le ballon et latéral lorsqu'elle ne l'avait pas. Mais aujourd'hui, moi, je suis pas fan de Camavinga arrière gauche par exemple en équipe de France, mais si le Real joue de cette façon un peu moderne, c'est-à-dire que il n'hésite pas à faire monter le latéral. Non, mais je sais, mais je te dis juste que maintenant ce nouveau rôle hybride. Avant, le latéral il jouait très haut, quasiment ailier. C'est le cas encore dans pas mal d'équipes. Mais il y a aussi aujourd'hui des latéraux qui jouent dans le cœur du jeu quand l'équipe a le ballon. Et encore une fois, c'est Guardiola qui l'avait fait en premier, même avant avec Kimmich à l'époque du Bayern. D'ailleurs, Kimmich est maintenant resté au milieu de terrain. Mais ça peut quand même lui convenir dans ce rôle hybride et assez moderne de jouer latéral gauche quand ton équipe elle a pas le ballon et avec le ballon d'avoir la liberté de te projeter vers l'avant. C'est ce qui a permis sur cette magnifique remise de Modric et ce magnifique but de Vinicius de marquer.
Et d'ailleurs, tu auras vu qu'à la fin, Nacho est entré, il a pris la place de Camavinga, et ben Camavinga a repris son vrai poste dans le cœur du jeu.
Ouais.
Enfin, tu veux pas t'habituer à le voir là, toi. Moi, je t'avais dit, la première fois où il a vu là, je t'avais dit, tu vas voir, il va jouer là. Tu dis, oh non, pas moi, non, non.
Mais il est là parce qu'il y a des blessés, c'est tout. Parce que ouais, il est blessé toute la saison.
Donc,
quand l'année prochaine, le Real va faire venir un nouveau latéral et Camavinga ne jouera plus latéral.
Bon, en tout cas,
lui-même dit que
constatons qu'en moins d'un an à ce poste, parce que rappelez-vous du fameux France-Tunisie où il avait joué là pour la première fois, où il était quoi, tant paumé le pauvre.
Il a bien progressé.
Là, il joue là, il accepte de jouer là parce qu'on lui dit de le faire et que lui, il a envie de jouer de titulaire.
Alors, les gars,
mais c'est pas son poste. Hein.
Permettez-moi quand même, parce que vous, si vous avez été impressionné par Alaba, moi, celui qui me plaît le plus, c'est Rudiger. Le côté fighter.
Mais toi, t'adores les défenseurs sauvages. Ouais. Mais je comprends. Exactement. Parce que ça me plaît aussi.
Et parce que ça, c'est un type qui a un charisme et qui emmène le reste de l'équipe avec lui.
Mais je suis d'accord avec toi. Alors, j'ai toujours aimé ce défenseur.
Des fois, il est à la limite.
Non, pas des fois. Toujours, il est à la limite.
Toujours il est à la limite, mais il l'a franchi. Au fond, tu sens un type assez fair-play quand même. Il joue avec ses.
Non, il est pas fair-play parce que.
Non, mais
est-ce que moi j'adore.
Comprends-moi. Oui. Il va à la limite, mais c'est pas le mec. C'est pas la petite garce qui va mettre des petits coups.
Non, lui, il met des vrais coups. Mais tu sais que le Real. Tu sais, c'est quand que le Real s'est révélé.
C'est génial, Rudiger. Moi, le premier mec que je mets dans mon équipe, c'est Rudiger.
Mais tu sais, moi c'est pas mon style. Mais tu sais quel est le moment où le Real rentre dans son match, c'est quand Rudiger met un tampon à Gundogan. C'est là que le Real commence à rentrer dans le match, vraiment. Et que City est sonné. Mmh. Et il avait fait le même coup face à De Bruyne en finale de Ligue des Champions, où il tamponne De Bruyne. De Bruyne doit sortir et derrière, Chelsea domine Manchester City et finalement gagne la Ligue des Champions. Mais c'est vrai que c'est un joueur. Je le disais pendant le direct sur RMC, je disais. Rudiger, c'est pas un beau joueur, mais t'aimes bien avoir un Rudiger avec toi.
En fait, moi je comprends pas, il est pas allemand, Rudiger. C'est un Argentin.
Ouais, un peu.
Non ?
Il a un nom d'Argentin.
Il y a parfois des Argentins qui sont allemands, tu sais.
Il y a eu des défenseurs allemands qui étaient comme ça. Hein.
Ouais, c'est pas l'image qu'on en a, tu vois.
Pourquoi des défenseurs allemands Brutos, t'en as pas eu ?
Si, il y en a eu, mais moi j'ai plutôt l'image du défenseur allemand, bon, tu vois. Plutôt tranquille derrière, un peu pato, pas mauvais, hein, mais tu vois, mais c'est l'image que j'ai du défenseur allemand en général,
un carré, peu pato. Bah oui, un peu pied carré
un peu
comme
pato,
ça.
Ouais, un peu pato.
Après c'est quand même fou la carrière d'un joueur.
Là je vous suis pas trop.
Parce que Rudiger, il était moi je suis d'accord avec toi.
Mats Hummels, il était pas toi.
Non mais oui, c'est des grands gars un peu, tu vois.
Mais il est grand, Rudiger, il fait 1m80.
Forster, c'était pas un top défenseur.
Oui, mais c'est plus technique, quoi. Enfin, je sais pas, mais c'est pas Rudiger, quoi.
Ouais. Non, mais très différent. Rudiger, c'est un joueur vraiment atypique et il a aussi une carrière.
Moi, je me souviens de Hans-Peter Bregel qui mettait des gros taquets, lui, par contre.
C'est sûr.
Il était surtout milieu d'EF, mais bon.
Ouais. Rudiger, il était quand même à la cave à Chelsea avant que Tuchel relance sa carrière. Ça tient pas à grand chose, quand même, certaines fois, les carrières de footballeur.
Gratos, hein, il me semble.
Ouais, je sais. Bah, là-bas aussi. Okay, très fort quand même. Quand tu vois Vinicius, 40 millions, à la base on s'est dit c'est cher, mais au final c'est un phénomène. Rodrigo, 45 millions, c'est dit c'est cher, mais à la base il a quand même des qualités. Alaba et Rudiger libre. Oh, les mecs, ils sont très très forts quand même. Ils sont très très forts dans le recrutement. Finalement, ceux qu'ils achètent très cher, c'est les Français.
Hans-Peter Bregel, Daniel, a joué défenseur contre la France dans un match amical à Strasbourg. J'étais juste derrière la grillage et je le voyais devant moi. Le mec faisait peur. Tu faisais des cauchemars après.
T'avais quel âge?
Mais tu sais que vu d'aujourd'hui, il ferait plus peur. Parce qu'il n'était pas.
Il était petit, c'était un petit gars, mais.
Pas immense, c'était une espèce de. Pas, mais pour l'époque, oui, ça, il dégageait une sorte de robustesse qui nous foutait les jetons. Mais...
Ah non, attends. En fait, il faisait 1m88. Je peux juste vous dire d'un mec petit.
1m88
bah, c'est ça, fiche devant les yeux. Bah, moi, je le voyais plus petit.
Je le voyais pas si grand que ça.
Mais même là, Rudiger, à côté de Haaland, il faisait petit. Hein.
Ouais. Quel duel, en tout cas, dans ce match.
Oh, c'était merveilleux.
Oh, le duel.
C'est pour ça que je pense que la semaine prochaine, enfin, après, c'est Carlo qui décide, c'est pas moi. Mais je me demande s'il y a intérêt.
Comment ça, tu décides rien du tout?
Non, c'est fini.
Il a perdu de son influence, Fred. Depuis que Zidane est parti.
Et franchement.
Par contre, va aussi falloir parler quand même du fait que Carvajal, il peut prendre 3 cartons jaunes en première mi-temps.
Oui, alors, les gars, accueillons Julien Laurence. Il est au stade à Madrid. Eh oui, parce qu'il est comme ça, Julien. Il suit les équipes anglaises. Et puis, comme il bosse aussi pour la télé pakistanaise, américaine, anglaise et néo-zélandaise, écoute, il est au stade.
Et aussi la télé de Gibraltar, on m'a dit.
Oh.
Ouais, ouais.
Salut, Julien.
Salut, Gilbert. Salut à tous.
C'est vrai
salut,
pour Julien. Gibraltar?
Non, pas encore, mais après, je pense qu'il montre, il passe des trucs de la première ligue, peut-être, des choses comme ça.
Ah, d'accord, ils reprennent tes programmes, quoi.
C'est ça, exactement. Exactement.
Bon, Fred est pas, comment dirais-je, pessimiste pour le Real en vue du retour. Toi, ton vision générale pour le retour avant qu'on rentre dans le match?
Mais moi, j'avais fait de City un léger favori, et je pense que c'est toujours le cas avant le match retour. Quand tu fais un partout à l'extérieur, même si le but à l'extérieur compte plus double. Et que tu rentres à la maison avec un résultat plutôt positif comme ce soir, je pense qu'ils sont plutôt contents. Je pense que Guardiola sera content du résultat, de la performance. Il y a des choses à redire, il y a des bonnes choses, il y a des choses un peu moins bonnes forcément, mais quand t'es mené au score comme ça dans un match qui est pas facile, hein, parce que l'absence de tempo et de rythme en face, c'est compliqué pour une équipe comme City qui est plus à l'aise finalement contre une équipe comme le Bayern qui joue, qui a de l'intensité et tout ça, plutôt que ce soir où ça presse pas, ça court pas, ça t'attend. C'est plus difficile pour eux, je pense. Donc là, ils seront plutôt contents d'être revenus au score. Et puis la dernière fois qu'ils ont perdu à domicile dans un match à élimination directe en Ligue des Champions, c'était en avril 2018 contre Liverpool. Donc c'est vrai qu'ils ont aussi cette à domicile, en tout cas sur les 11 dernières rencontres comme ça à élimination directe, 10 victoires, un match nul. Donc ça aussi, je pense que c'est un point très positif.
J'ai une question pour toi, Julien. Est-ce que vous avez demandé, je sais pas, vous rencontrez souvent Pep Guardiola, est-ce que il vous a déjà répondu sur la question, mais pourquoi diable ne fait-il pas de changement dans ce genre de match?
Ouais, mais alors il dit que on lui a posé la question, tu sais, et souvent d'ailleurs, il fait pas, quand ils font pas de changement, ils gagnent pas. Et c'est ce qui est très bizarre. Ah. Et en fait, voilà, il le sent pas. Il dit que ça prendrait trop de risques de changer quelque chose.
Mais tu changes un ailier. Il est où le risque? Tu fais rentrer Riyad Mahrez ou Foden?
C'est même pas ça le pire. Le pire, Kev, c'est que ils ont arrêté de s'échauffer. Alors, Rico Lewis, le jeune défenseur milieu de terrain, s'est un peu échauffé jusqu'à la fin, mais il savait très bien qu'il allait pas rentrer en jeu. Mais je crois que Riyad est rentré très vite sur le banc. Et tu vois, c'est pas comme s'il s'était échauffé jusqu'à la fin, parce qu'à un moment, ils ont cru peut-être qu'il a. Non, même pas ça, quoi.
Après, attention, bien sûr.
C'est quand même, il y a pas beaucoup d'explications pour nous faire avaler cette pilule. Enfin, Guardiola, le maître tacticien, il pense tout dans les matchs et là, il va pas faire un changement qui peut apporter un peu de fraîcheur. T'imagines Mahrez mettre
qu'ils sont
le
bien
feu
en place.
Ouais, mais regarde, Grealish, il est cramé sur la fin de match en fait.
Mais c'est la fraîcheur en fait.
Encore, je sais pas. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que je pense que Camavinga a fait un très bon match, mais il fait un très bon match parce que c'est Bernardo Silva aussi en face. Je pense si tu lui mets Riyad Mahrez, qui va beaucoup plus le provoquer balle au pied que Bernardo, qui a quand même tendance, qui est plus un joueur qui va contrôler le tempo de la rencontre, qui va jouer vers l'arrière ou latéralement, ou passer le ballon vers l'avant, mais
c'est un joueur d'évitement, Bernardo.
Voilà, c'est ça, exactement. Alors que Ria, c'est vraiment le 1 contre 1, je vais venir, je vais te provoquer, etc., etc. Et je pense que Camavinga aurait eu plus de mal, et j'aurais bien vu à Riyad Mahrez, effectivement, pour les 15 dernières minutes, venir mettre un peu le feu sur le côté de Camavinga. Et pas du tout.
Ou est-ce que Guardiola, à force qu'on lui dise qu'il fallait qu'il arrête d'inventer les trucs dans les grands matchs, il s'est dit, bon, très bien, maintenant je vais garder la même équipe.
Non, mais là, c'est en ne faisant pas de changement qu'il invente quelque chose. Ça n'arrive jamais.
Plus il donne de possibilités de changement, moins il en fait.
D'ailleurs, jusqu'à l'année dernière, on commentait la première ligue sur RMC Sport et il avait réclamé les 5 changements en PL. mais il en faisait quasiment jamais deux. Donc en fait, tu il y a vraiment des choses qui que tu comprends pas des fois. Alors bien sûr, c'est le maître incontesté. On n'a pas de leçon à lui donner, mais des fois quand même ça pose des questions de se dire t'as Alvarez, t'as Foden et Mahrez sur le banc, t'en fais même pas rentrer un pour dynamiter la fin de match.
Alors, on va se retrouver dans
c'était un match Fred, physiquement assez compliqué quand même.
On va se retrouver dans deux minutes ensemble pour parler des deux attaquants là. Il faut qu'on parle de Haaland, de son match, de Benzema et de son match. Si on aura Hicham au 32-16 avec Julien, avec Fred, avec vous tous, on se retrouve tout de suite dans l'after et ensuite il y aura l'OL et le PSG au programme avec l'actu du jour.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h18, Daniel Riolo est là, Kevin Diaz est là, plus Fred Hermel, plus Julien Laurence qui est au stade à Madrid après le 1 partout entre City et le Real, le demi-finale aller de Ligue des Champions. Demain on aura l'autre match hein, sur RMC, bien sûr on ne rate rien de ces matchs de Ligue des Champions, et jeudi on aura à nouveau un after de 2h, 2h de Génération After, 2h d'after. On vous prépare d'ailleurs des beaux dossiers pour jeudi soir. On vous expliquera tout ça dans le détail tout à l'heure si on a le temps, je pense qu'on l'aura. Allons-y sur Haaland. Julien, qu'est-ce que tu as pensé de son match à Haaland, lui qui en général est beaucoup plus décisif?
Ouais, c'est vrai, ça fait deux matchs de suite maintenant qu'il marque pas, parce qu'il a pas marqué ce week-end non plus en Première Ligue ce soir. Il y a pourtant eu la place, notamment la frappe en première. Alors il y a la frappe contrée par le tacle d'Alaba qui est vraiment un très joli tacle. Peut-être qu'il a mis un petit peu de temps. Il y a la frappe qui est de l'intérieur du pied gauche sur Courtois sur le ballon de De Bruyne en première mi-temps. Il y a la tête aussi en première période. Mais c'est vrai que ça a manqué peut-être un petit peu de bon service. On a vu en seconde période notamment quelques centres de De Bruyne qui sont pas vraiment arrivés ou pas dans la bonne zone. Je pense qu'il a aussi été très bien pris par Rudiger pour seconder ce que Daniel et Kevin disaient tout à l'heure.
Julien, il y a quelque chose aussi qui est évident, qui concerne Haaland, mais beaucoup d'attaquants dans le monde. Le bloc bas, pour ce genre d'attaquant,
tu as raison.
C'est facile pour personne. Tu contournes, tu essayes de centrer. Bon, et c'est pas le jeu non plus de City de balancer des ballons. Alors avant, encore moins que cette année, parce que tu peux te dire que Haaland a la taille, mais il a beau avoir la taille, c'est pas non plus, tu sais, l'avant-centre qui met des coups de tête, c'est pas tellement non plus son jeu, ça.
Non,
la taille ne fait pas de toi forcément un super jeu de tête ou tu t'inscris pas dans un jeu collectif comme ça par hasard en improvisant un soir. Et je crois que City a toujours été emmerdé contre ce genre de bloc là, comme énormément d'équipes de toute façon en Europe. Hein, c'est la base. Et Haaland, il est pas à l'aise du tout dans ce genre de schéma. Il y a rien d'original finalement à ça.
De toute façon, personne n'est à l'aise. Hein. Peut-être à part Karim Benzema, parce qu'il a quand même une technique largement au-dessus de la moyenne. Mais c'est vrai que forcément, Haaland, c'est un joueur qui a besoin un tout petit peu de profondeur. Même si on ne parle pas de 40 mètres derrière la défense, mais au moins 20-25 mètres.
Non, mais en seconde période, quand le Real a joué un peu plus haut et a joué un peu plus tout court d'ailleurs, il y aurait eu peut-être la possibilité de jouer un petit peu plus en profondeur. Et ils ont pas vraiment réussi à le trouver non plus. Il y a un moment où Grealish sur une contre-attaque, mais Rudiger encore une fois s'interpose très bien. Et puis il y a celle où Alaba, je sais pas bien revu, en tout cas pas sous tous les angles, mais celle où Gundogan lui met en profondeur et il emmène bien le ballon. Rudiger est battu cette fois et c'est Alaba qui revient et qui fait donc ce tacle qui compte le ballon et le ballon va encore l'air. Je sais pas si il aurait pu aller plus vite, je sais pas s'il a tout bien fait, j'ai pas bien revu les angles.
Le tacle est exceptionnel. Hein.
Ouais, il a l'air magnifique effectivement de ce que j'ai vu, mais voilà, c'est tout. Après, on a tellement l'habitude qu'il marque, c'est quand même 51 buts cette saison, que c'est vrai que alors en championnat le week-end dernier, il a raté des occasions encore plus grosses que ce soir, et ce soir voilà, il a manqué un petit truc. C'est vrai que ça a très bien défendu en face, comme l'a dit Daniel aussi, avec le bloc bas pendant la majeure partie de la rencontre, c'était pas facile pour lui.
C'est à noter que, petite stat, mais c'est que la deuxième fois cette saison que Guardiola ne fait pas de changement, et la première fois c'était également dans un match à élimination directe, puisque c'était à Leipzig dans le match nul, un but partout de Manchester City. Donc peut-être qu'il est superstitieux, Guardiola.
Et sinon, il y avait un autre truc, Julien, je sais pas ce que tu penses de ça, Kevin, je sais pas ce que vous en pensez, mais jusqu'à ce qu'il marque, De Bruyne n'était pas en train de faire un match de malade. On adore tous ce joueur, mais ceux qui ont un œil peut-être un peu moins amoureux que nous, parce que parfois l'amour ça rend un peu aveugle, je ne voulais pas entendre ou pas complètement admettre qu'effectivement parfois quand il fallait aller tout en haut, il n'avait pas toujours été excellent. Bon, il fallait peut-être... j'étais en train de me poser cette question pendant le match. J'ai dit, merde, est-ce que ceux qui sont un peu plus fine bouche que moi là-dessus ont raison? Bon, il a sorti ce but qui est quand même vraiment extraordinaire. Oui, oui. Mais est-ce qu'en Angleterre, c'est quelque chose qui se dit aussi? Est-ce que toi, Julien, ouais. tu l'as vu également parfois être un peu moins bien dans les grands matchs?
Il manque un peu de caractère quand même,
c'est,
Kevin De
Bruyne. Voilà, ben, c'est à ça que je voulais en arriver. Parce que globalement, c'est là où il y a la différence entre Real et City. Le Real dégage un gros caractère.
Ah oui, c'est la vraiment, différence.
Toi,
c'est
on dirait,
la différence entre Modric et De Bruyne.
En gros, c'est l'homme viril des 70s un peu poilu, tu vois. Et
Fred Hermel, quoi.
Hein,
Fred Hermel.
Ouais, voilà.
70s, ouais. Enfin, 70s, je venais de naître.
Ouais, mais poilu, ça va.
Non, je m'étais retenu
sur les poils. Et en face, tu vois, le jeune beau, mais...
Le gendre idéal.
Pubert, quoi.
Julien Laurence, quoi.
Julien Laurence.
Non, mais tu rigoles,
Fred est vexé, mince.
Tu rigoles, Daniel, en faisant cette comparaison, mais tu vois, moi je le compare souvent. Pour moi, peut-être les deux meilleurs milieux de terrain des 10 dernières années, c'est Luka Modric et notre ami Kevin De Bruyne. Mais tu vois, Luka Modric, il a ce côté un peu croate, il lâche rien, pourtant c'est pas le plus gros tempérament, mais il a mené son équipe jusqu'à une finale de Coupe du Monde. Mais quand même, c'est quelqu'un qui a toujours de la personnalité.
Il a un caractère, hein,
bien sûr. Ouais. Et alors que Kevin De Bruyne, tu vois, c'est un peu le flamand, un peu taiseux, qui parle pas beaucoup. Pourtant, il a eu un sale caractère quand il était jeune, notamment à Chelsea, Julien, avec Mourinho. Ouais, ouais. Mais c'est quand même quelqu'un qui, on a l'impression, quand il faut aller élever, comme dit Daniel, son niveau, aller pour la dernière sphère, le dernier cercle, on a quand même l'impression que pour l'instant, il lui manquait encore ça, mais je sais pas.
Ah, je sais pas, il a quand même été important dans les demi-finales de Manchester City par le passé. Il marque ce soir, il a marqué des buts très importants en première ligue aussi. Mais après je vois, c'est vrai qu'en plus à la mi-temps, on en parlait avec Ned Monoa, l'ancien joueur de Manchester City qui est là pour le club, et en disant ils n'y arriveront pas jusqu'au bout, en tout cas s'il n'y a pas un bon Kevin De Bruyne, alors soit par intermittence, ça c'est sûr. Et c'est vrai que la première période, il la traverse, mais voilà, il est très peu impliqué. Alors qu'ils ont quand même beaucoup le ballon. Hein. Ils ont, je crois, ils ont 68% de possession de balle en première période. Ils ont beaucoup le ballon et lui, finalement, est pas du tout impliqué, ou pas assez en tout cas impliqué. Et même si tu enlèves le but, il y a un moment en seconde période où il y a un 2 contre 1 sur la droite, il a juste à décaler Bernardo Silva et il lui met le ballon trop fort, par exemple. Voilà, c'est ce genre de petite erreur là qui habituellement ne fait pas, en tout cas ne devrait pas faire avec son talent et à son niveau. Donc c'est vrai qu'il était un peu en dedans à part le but, et même dans sa relation encore une fois technique avec Haaland, ça a pas été parfait, alors qu'on les a vus cette saison par moments être assez incroyablement connectés. Donc ouais, c'est vrai que c'était un problème, et même si le but sauve un peu son match, je pense qu'on attendait encore un peu plus quand même de sa part.
Je suis d'accord.
Et le match de Benzema maintenant, Fred?
Il fait pas un énorme match, mais enfin il est très intelligent. Je pense qu'il est plus 10 que 9 ce soir, même s'il se crée une très belle occasion, parce qu'il y a une main...
Ouais, mais énorme match, ça veut dire pour lui, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il mette 2 buts, 2 passes. Non, il est quand même précieux dans tout ce qu'il fait. Hein.
Oui, bien sûr, mais il ne marque pas. Mais je te dis, il est plus dans un rôle numéro 10. Et comme c'est vrai que le Real a souvent joué bas, Benzema, il était très très bas. Donc,
mais il a été quand même précieux dans sa capacité
dès qu'on
à garder les ballons.
Il l'orientait, il régalait. Je rappelle quand même, pour ceux qui l'ont oublié, que Karim Benzema, c'était le gars qui, à la Coupe du Monde, n'aurait pas été utile en quart de finale, par exemple.
Ouais, je sais pas, non, vous à la télé, mais en tout cas, au
je sais
stade,
pas, vous l'avez oublié, ça, ou...
Ouais, non, on
n'a pas oublié.
Julien, comment t'as vu ça du stade, Benzema?
J'ai du mal à passer à autre chose.
Pourtant, il a fait un bon match.
Ah non, alors après, bien sûr, il y a la tête, effectivement, sur le coup franc de Modric que Ederson sort. Mais après sinon, il n'y a pas beaucoup non plus d'occasions pour lui, d'occasions franches. Il y a la frappe qui est déviée juste au-dessus aussi en début de seconde période. Mais c'est dans le mouvement, dans les appels de balles, dans les contrôles de balles, surtout le jeu de haut but. C'est fantastique à voir.
Ouais,
parce que je sais pas à la télé si on se rend compte toujours très bien, en tout cas ce soir par exemple. Parce qu'effectivement, il n'est pas non plus toujours là, présent, etc. Il ne marque pas par exemple non plus.
Non, mais
chaque contrôle orienté, toujours dans le bon tempo, toujours dans le bon timing, c'est quand même assez incroyable à voir.
Non, mais le niveau technique du match. Alors certes, il n'y avait pas énormément d'intensité parce que le Real a accepté de laisser le ballon et donc s'est contenté de sortir souvent dans les transitions rapides, en tout cas en première mi-temps. Mais le niveau technique du match, il est exceptionnel. Hein. C'est-à-dire que Manchester City, à la 22e minute, ils ont 75% de possession de balle, ils ont 95% de possession de balle réussie, de passes réussies, alors qu'ils ont les possessions de balle dans les 40 derniers mètres de l'adversaire avec une densité énorme. Et le Real arrive à s'en sortir et va marquer un but en contre. Donc non, franchement, c'était peut-être pas le match de l'année, mais c'était un très très beau match de foot.
Et puisqu'il faut dire de Benzema, c'est vraiment la relation qu'il y a avec les deux autres, avec les deux Brésiliens.
Ouais, non, mais c'est, avec, les deux Brésiliens, ils sont extrêmement
frais. Les Benzema, deux doubles deux, là. En demi-seconde de période, il frappe au-dessus, dévié là. C'était magnifique.
Mais ils ont. D'ailleurs, je propose à nos auditeurs, que ce soit ce soir ou en podcast demain, d'aller voir la petite animation d'RMC Sport sur Twitter, où les collègues ont fait une petite animation rapide là. La sortie de balle du Real qui dure au moins 1 minute 30 à 2 minutes pour la frappe de Benzema, justement, dont tu parles, Julien. Ah, le Real, c'est quand même pas mal quand ils veulent.
Ah non, encore. Effectivement, mais quand ils se mettent en route et qu'il y a les échanges, c'est du très, très gros niveau. Hein. Bon, enfin, bon, après, on ne découvre pas. Hein.
Julien, et ensuite Hicham au 32-16.
Pourquoi ils ne le font pas plus, dit
ouais.
Julien. Mais Fred, en fait, c'était. Je l'explique tout à l'heure avant ton arrivée. En fait, défensivement, le Real n'était pas bon depuis plusieurs semaines et Carlo Ancelotti a d'abord resserré les boulons. Voilà, et c'est pour ça.
Non, mais il jouait comme ça la saison dernière déjà, Fred. Moi, sincèrement.
C'était différent. Ouais, mais c'est.
Tu vois, je l'ai regardé.
Non, non, il jouait pas différemment.
Non.
Hein.
Non, non.
Je vois pas en quoi il jouait différemment. Julien a raison. C'est juste que c'est une équipe qui parfois est capable d'allumer un feu d'une force incroyable.
Voilà. Il y a une petite polémique qui est en train de naître. C'est qu'Ancelotti, là, à gueule, parce qu'il explique qu'il y a un ballon qui était sorti
avant le but.
Sur le but de City.
Ils l'ont demandé d'ailleurs pendant le match.
C'est pour ça qu'il.
Ah, moi, j'ai pas fait gaffe à ça.
Juste avant, il prend jaune. Il prend un carton, Ancelotti, après le but.
Une chaîne arabe, c'est Bein Middle East, a fait une sorte de Ice Walk, là, c'est le truc là,
le Hokai.
Le Hokai, ouais, pas le Hokai, on voit clairement que la balle est sortie, quoi. Donc, mais c'est alors, difficile à voir.
Ouais, si on peut pas le voir vraiment, on peut pas le savoir.
C'était impossible à voir pendant le match.
Mais le juge de touche, il est juste devant. Hein. Le juge de touche, c'est
la façon
c'est
de le
bon
voir,
côté.
C'est une caméra au-dessus. Hein. Si t'as pas la caméra au-dessus, tu sais pas. Hein.
Mais et le juge de touche est juste devant. Il est juste devant. C'est son bon côté à lui. Et il est juste devant. Devant les deux bancs, de ce côté-là, du côté droit, donc là où City attaquait en fait, et la balle elle est juste devant lui. Alors peut-être qu'il s'est trompé, hein, peut-être que le ballon est sorti, alors, qu'il n'a pas tout vu.
On en a
au moins,
pas
il est bien placé au moins.
On n'en a pas encore parlé, mais même si c'est la spéciale Carvajal, puisque c'est la saison dernière à Liverpool, il fait la même. Je crois que c'était sur Darwin, mais là, la bousculade de Carvajal en première mi-temps, c'est un penalty en fait. Et encore une fois, alors ok, c'est peut-être pas une erreur manifeste que l'arbitrage vidéo doit reprendre, mais qu'est-ce qu'il est intelligent pour défendre. Même si je pense quand même qu'il aurait pu prendre trois cartons jaunes en première mi-temps.
Il est tout petit, il est tout mignon.
Ouais.
Il est tout gentil. Non, mais simplement, je voudrais revenir. Simplement
pour conclure,
juste avant, par rapport à l'an dernier. L'an dernier, le Real a joué en réaction tout le temps en Ligue des Champions, pas cette saison. Le Real n'a pas joué en réaction cette saison en Ligue des Champions. Le Real n'a jamais été derrière en Ligue des Champions cette saison.
Ah non, mais le Real aujourd'hui, pour moi, ils sont pas loin de mériter de gagner.
Allez, on conclut, les gars, avec Hicham, au 32-16, supporter du Real. Salut Hicham.
Salut l'équipe.
Merci d'avoir patienté. Tu es d'accord avec tout ce qu'on a dit là ?
Ouais, vous avez tout dit. Hein. Après, sur vite fait 3 points, pour moi, il y a une maîtrise quand même globale sur le match, offensivement et défensivement du Real Madrid. Parce que qu'on le veuille ou non, les 20 premières minutes, quand il laisse le ballon à City, je pense que c'est voulu. Je pense que Carlo Ancelotti a bien compris que cette équipe bouffait les espaces derrière avec notamment le maestro De Bruyne pour Haaland. Donc du coup ils ont dit bon bah on va jouer bas, on va laisser passer l'orage, c'est ce qui s'est passé. Et offensivement ils ont régalé. Vinicius c'est incroyable, vraiment incroyable. En tant que amoureux du foot, c'est incroyable ce qu'il fait. Kyle Walker, il doit prendre 10 Doliprane ce soir.
Et on peut pas lire ce qu'il fait, on peut pas lire ce qu'il va faire en fait.
Ouais, c'est imprévisible et à chaque fois ça passe, à chaque fois il y a une occasion de but, à chaque toucher de balle, il y a un truc qui se passe. Et voilà, j'aimerais juste qu'il gomme un peu ce côté un peu provocateur quand il parle beaucoup aux adversaires.
Il a besoin de ça. Il a besoin de ça.
Il y a des mecs qui se chauffent grâce à ça, qui se motivent.
Il y a des joueurs qui ont besoin de ça. Il faut pas le changer.
Il peut gagner
ce soir.
Il changera pas.
Et être plus efficace justement en ne perdant pas.
Mais je crois que Kevin a raison. Je pense que ce gars-là se nourrit de ça. C'est, il tire c'est une comme, force de ça.
Je me trompe, Daniel, mais c'est comme McEnroe au tennis. Quoi. T'as des gars qui ont besoin d'être. C'est Zlatan qui disait.
Tu peux pas les calmer. Si tu les calmes, en fait, ils vont perdre de la force.
J'avoue qu'à mon tout petit niveau,
il était très sage.
Ouais, c'est vrai.
Mais par rapport à ce qu'il fait dernièrement en championnat et en Coupe du Roi.
C'est Zlatan qui disait qu'il avait besoin d'être énervé pour jouer, pour se sentir bien.
Bien sûr.
Joueurs comme ça, il faut pas les changer tant qu'ils dépassent pas les bornes, parce que le sombrero là qui tente, alors bon retour de Walker, mais c'est pas tous les joueurs de foot qui peuvent faire ça, je peux te le dire, à haute intensité, à haute vitesse comme ça, arriver à faire le tour du monde comme ça, même si Walker a bien défendu, a fini par récupérer le ballon, c'est exceptionnel de voir ça.
Hicham,
Ouais. Et juste un dernier truc, ouais. Vous parliez des probabilités pour le match retour. Pour moi, c'est du 51-49. Le 1% pour le Real, c'est l'expérience. Et dernière chose, va falloir à un moment donné qu'on parle, vous en avez parlé, mais de manière très concrète, de l'aspect psychologique des entraîneurs. Guardiola, ce soir, pour moi, c'est du bullshit. Il a Foden sur le banc de touche. Grealish, il est nul à chier. Je suis désolé. Franchement, aucune plus-value dans le jeu offensif. Du...
Dites-moi, exagérer l'expression que tu as employée.
Ah, ah non, franchement, je vous jure.
Après, attention, attention, il ne faut pas voir que... Là, tu parles de l'offensif, mais il ne faut pas voir, faut pas oublier que Grealish, il défend tout le match aussi.
Ouais, mais même s'il défend, quand tu as un mec comme Foden, Foden aussi fait des retours. Et Mahrez sur le banc. Et après, dernière chose, après, je vous laisse. On va pouvoir aussi... Aujourd'hui, comparé peut-être à la fin de cette double confrontation, les niveaux, on parle de la première ligue où City marche sur la première ligue, ils tapent tout le monde, et notamment dernièrement, ils ont écrasé Arsenal. Tu te dis peut-être que ce championnat, il est un peu surévalué et qu'aujourd'hui, une équipe comme le Real Madrid arrive à contrecarrer.
C'est bon, Hicham, jusqu'à là.
Attendez, ouais, avant le match, Wayne Rooney avait déclaré, deux points ouvrés des guillemets, City va écraser le Real Madrid. Tout le monde anglais.
Non, mais d'accord,
Et aujourd'hui, en fait, Ancelotti et le Real Madrid prouvent que finalement, il n'y a pas de
temps. Mais là, on parlait de Real, les gars.
Mais Hicham, dans ce que tu dis, il y a aussi quelque chose. Tout n'est pas vrai, mais je vais m'arrêter à la fin de ton raisonnement. Quand tu parles des consultants, il ne faut jamais oublier que les consultants, t'en as des bons, et que avoir été un joueur même immense ne fait pas toi forcément un très bon consultant. Et il y a des consultants qui n'arrivent pas à se défaire d'un truc, c'est le chauvinisme, c'est les amitiés, c'est défendre ton championnat sans réellement regarder de quoi sont faits les autres.
Exactement.
Ils n'ont pas forcément une connaissance large de tout ce qui se passe ailleurs. Donc après, vous me les citez et tout, mais dans chaque pays, comme nous en France, comme en Italie, comme partout, il y a ceux qui sont bons. Je parlais hier de Cassano, que globalement j'aime plutôt dans ses analyses là, même si très souvent il est provocateur et il en fait un peu trop. Il se trouve que sur le cas de Messi, il est parti en délire complet. Bon, après, je me renseigne, j'échange avec Johan Crochet qui me dit ouais, oublie pas que c'est un fan absolu de Messi, qu'il a appelé son fils Léo. Bon, toute l'analyse, elle s'écroule.
Exactement.
Parce que le gars, les consultants, c'est des gens qui sont beaucoup dans l'affect. Et donc, tu peux pas venir et dire ouais, Wayne Rooney, il a dit ça, ça veut dire que le championnat, il est pourri ou que ceci, cela. Ne tire pas de conclusion de ça. Parce que il faut toujours essayer de comprendre pourquoi le mec dit ça, est-ce qu'il connaît vraiment la Liga,
est-ce que Wayne Rooney a regardé plus de 10 matchs du Real cette saison?
Exactement, Kevin a raison.
Je ne sais pas, mais il faudrait le savoir.
Tous les consultants ne sont pas comme Kevin qui regarde une tonne de matchs. Hein.
Et après, c'est pour ça qu'il faut faire attention.
Surtout
justement.
Les stars.
Voilà, exactement.
Toi, t'es pas une star, ça qui est bien.
Et bien justement, ça veut dire que si je suis là, c'est parce que je suis bon consultant. C'est pas parce que j'ai joué en équipe de France.
Tu as plus de mérite.
Et voilà, et bien sûr. Et donc,
bravo, Kevin.
Merci. Et juste, Julien, qu'est-ce que tu penses de. Un petit peu, mais bon.
Ça, c'est l'avantage pour nous.
Par contre, on va en rediscuter. Mika Richard, c'est un bon consultant, hein, Julien.
Ouais, pas mal.
Enfin, c'est pas mal.
Allez, on conclut.
En tout cas, moi, je le vois souvent. C'est pas celui qui a la plus grosse carrière, mais je le vois souvent sur des gros plateaux. Donc, il y a aussi des consultants un peu moins.
Juste pour votre consultant, pour conclure, Manu Petit qui nous a régalé sur RMC Sport comme d'habitude et qui donc a rebaptisé le stade Santiago Bernabéu, San Bernabéu.
Ah ok.
Donc Stéphane Guy lui dit pourquoi tu dis San Bernabéu ? Il dit parce que j'aime bien. Il est bon ce Manu. Fred, merci beaucoup.
Le meilleur joueur du Mondial 98 peut appeler les stades comme il veut.
Ouais. Salut Fred, salut Julien, merci les gars.
Salut,
nous reste là maintenant 20 bonnes minutes pour parler du reste de l'actu du jour. Lyon, Paris, entre autres, au programme de l'After dans quelques instants.
RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h40. Kevin Gazella, Daniel Riolo. Et là est l'actualité française. Aujourd'hui est une nouvelle fois dominé par Lyon et par John Textor qui aujourd'hui a fait plusieurs choses. Alors déjà, il a rencontré les salariés du club. Il a discuté très longuement avec les salariés.
Je pensais que vous voulez parler du survêtement.
J'allais y venir.
Ah pardon.
J'allais y venir.
C'est essentiel.
Il, Exactement. Il a parlé au salariés du club en lançant des messages d'apaisement, en expliquant attention, Jean-Michel Aulas sera toujours présent. Voilà, tout ça c'est capitalistique. Bon, en gros, il a un peu noyé le poisson parce qu'on a bien compris que il avait clairement repris la main. Et ensuite, il est arrivé en conférence de presse, effectivement avec un survêtement. Sur le dialogue aux collaborateurs, il a dit ce n'est pas la fin de la collaboration avec Aulas, c'est un changement de leadership dans les décisions prises au sein du club. Bon, en gros, vous êtes en train de ça comme vous voulez, mais ça veut dire la même chose. Voilà, il va garder ses actions, il a toujours 8%. Il fait partie du conseil d'administration, il reste président d'honneur. Il aura même un box pour lui et sa famille au stade, précise Textor. Il continuera de voyager et d'accompagner l'équipe en déplacement. Voilà, mais en gros, il ne décidera plus. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Hein,
donc, ça devient quoi ? C'est un accompagnateur ? C'est le copain, la nounou
Moi, je crois surtout qu'il voulait éteindre le feu, là.
Ah, ok.
Ouais, c'est comme ça que je l'ai pris. Hein. Et donc, il est arrivé en conférence de presse derrière, avec effectivement le survêt. Enfin, pas vraiment le survêt. En fait, il avait surtout mis une sorte de parka OL sur sa chemise.
Ok.
Vous voyez ? Bon, on va dire que symboliquement, ça le fait, quoi.
Ouais, ouais.
Voilà, ça fait sens, je suis impliqué.
Je sens que Daniel n'a pas aimé le style.
C'est un peu US.
C'est à l'américaine, exactement ce que j'allais dire.
C'est
à l'américaine. Voilà, exactement.
Voilà, c'est exactement ça.
Texas Forever.
Le meilleur goût, quoi, le Texas.
Ouais, alors, clair. Je vous livre quelques-unes de ces bonnes déclats.
T'as vu les costumes américains, c'est pas les costumes italiens. Ils sont toujours des costumes larges, je comprends pas pourquoi.
Non. Mais rien ne vaut les costumes italiens.
Okay. Enfin, les Américains, à partir du moment où tu mets un t-shirt visible sous la chemise, t'es disqualifié.
C'est clair.
Non ?
C'est clair.
Bon. Textor dit attention, je suis PDG par intérim. Je ne serai pas le PDG pendant très longtemps. Le PDG doit être ici à Lyon avec des racines. On va en trouver un. On cherche. Donc ça veut dire qu'il cherche soit un Lyonnais, soit quelqu'un qui connaît bien le club, qui y est passé pour être le nouveau patron au quotidien. Et donc, pour remplacer techniquement Jean-Michel Aulas.
Bah, je me posais la question quand j'ai vu ça. Est-ce que j'envoie ma candidature ?
T'es pas lyonnais, toi ?
Je pense que je pourrais remplir le rôle tranquillement.
Tu peux pas être candidat à tout, Daniel. Il faut que tu choisisses.
Bah, justement.
Ministère des Sports, PSG.
Ministère des Sports.
Il faut que tu arrêtes de te proposer parce que ça va pas.
Ça fait un peu rameur. Ouais, mec, qui se repose pour tout.
C'est trop, là, Daniel. Prends la direction technique du TC16 et arrête.
C'est pas grave. Bah, non. Il y a quelqu'un qui est très très bien à ce rôle-là.
Il veut pas faire de blague et tout. Attends,
tu veux. C'est mon club. Mais.
Sinon, t'es viré.
Ministère des Sports. Ça a pas collé.
Ouais, ça
ils ont pas voulu de moi.
Ils ont pas voulu.
La Fédé, ça va pas. Ils vont pas vouloir.
Non, c'est mort.
La Ligue, la brune s'accroche.
C'est mort.
Ça va être dur de le sortir.
Qu'est-ce qu'il me reste? Tous les présidents contre
le
toi.
PSG. Bah non.
Le PSG, ça pourrait
quand
le faire.
On était ado avec Gilbert. On est bien allé voir le Prince et tout. Il nous a invités. Il nous a filé nos mallettes.
Ah oui.
Il a
dit allez. Retrouvé dans la dernière revue de la
Fédé. Il a dit barrez-vous avec les mallettes et arrête de le poste. C'est pas pour toi. Donc je suis parti. Voilà.
Maintenant Lyon.
Bah là, moi, Lyon. Ben ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Textor. Hein,
sinon,
qui...
prends Riss Orangis, fais quelque chose.
Ah, c'est pas assez fort. Attends, faut que je brille, moi. Oh. Je crois à Riss, c'est bien, mais bon.
Écoutez maintenant Textor qui parle de Laurent Blanc. Il le garde. We are keeping
and standing behind Laurent Blanc. On va garder et soutenir Laurent Blanc. Je pense que notre coach mérite beaucoup de ressources et de soutien pour cet été. Si on regarde les résultats de ce club, les choses fonctionnent bien sur les 15 derniers matchs. Il faut continuer à ajouter de la qualité et de l'expérience.
Voilà, Laurent Blanc reste.
Bah écoute, je suis un peu surpris.
Attention, moi, ce genre de conférence de presse, Daniel, oui. Le nouveau propriétaire qui arrive, on est donc le 9 mai, attendons le 30 juin.
Je pense quand
des fois, il y a des choses qui peuvent bouger.
Ouais, enfin, je pense quand même qu'au vu des 6 derniers mois, c'est.
On dit les promesses d'engagement.
Tu dis, Daniel, que t'es surpris. Moi, je trouve que c'est assez logique, quand même. C'est assez logique. On peut ne pas être fan de Laurent Blanc, mais. Enfin, moi, c'est pas mon cas personnellement, mais je veux dire, moi, je trouve qu'il fait quand même du bon travail. C'était pas facile de passer après tous les entraîneurs.
Je rigolais un petit peu et tout. On était un peu sérieux sur ce qui a été dit aujourd'hui. On est quand même début mai.
Oui.
Quasiment mi-mai.
C'est le bon moment pour préparer la saison prochaine, déjà un peu tard.
Pardonne-moi, voilà, ça commence déjà à être un petit peu tard. Moi, je veux bien qu'ils viennent faire la conf avec les annonces et tout, c'est normal hein, pour l'instant, mais il va falloir clairement accélérer. Que ce soit vrai ou pas, s'il veut garder Blanc, c'est une chose, c'est le terrain, mais il va falloir également qu'ils nous disent qui va bosser au recrutement. Les gens qui bossent sur le recrutement, Bruno Chérou, il a avancé sur un tas de dossiers. Il n'est pas dans son bureau à se tourner les pouces. Il a déjà discuté avec plein de gens pour l'année prochaine. Il reste ou il reste pas ? S'il reste pas, va falloir lui dire et il refile les dossiers à celui qui arrive. Mais qui arrive ? On entend parler de directeurs sportifs américains, anglais. Quoi. Ok, mais si c'est le cas, il faut le dire vite. Qu'ils prennent le bureau, qu'ils reprennent les dossiers de Chirou et qu'il avance. Ou si Chirou doit rester, qu'on lui dise « tu vas rester ». Je sais pas, l'équipe dit que la tendance est à ce qu'il parte. Je sais pas si quelqu'un est au courant réellement. Peut-être, hein, ça j'en sais rien. Pareil pour Ponceau, il a un rôle important dans le club.
Sur Chirou, il dit « on va pas enlever des personnes, on va en ajouter », dit-il. Bon,
peut-être que dans un premier temps, ils ajoutent pour ensuite lui dire, bon, écoute, maintenant tu t'en vas, pour assurer une forme de transition. Mais néanmoins, il va falloir clarifier les choses très vite. Peut-être que ça va se faire. Mais comme tu le disais, Kevin, on est début mai et il faut accélérer, clairement. Et les dossiers, ça se prépare. Il y a eu des observations de joueurs, il y a des retours de prêts, il y a des mecs qui doivent partir.
Faire des propositions aussi. Normalement, quand tu es en passe de prendre un club, tu as déjà, j'espère quand même que les candidats pour ce poste de PDG sont déjà en train de travailler.
Ah oui, toi tu parles du PDG, j'en ai pas parlé, t'as raison. Et ça c'est le dossier majeur, ouais, c'est le patron puisque ouais, c'est pas lui.
Ouais, il va falloir un PDG.
Moi je parlais du sportif,
oui, il va falloir un PDG qui va partir en Floride,
il va falloir un PDG ouais, qui va travailler avec un directeur sportif, manager général, appelons-le comme on veut.
Un président quoi.
Voilà, un GM comme ils disent là-bas, general manager, mais c'est un poste qui est important.
Et ils
forcément
ont parlé d'un Lyonnais.
Bah, je te l'ai dit il y a deux minutes.
Non, mais hein, je revenais dessus. Ça court pas les rues quand même.
Bah, c'est ça. Moi, c'est ça que je suis assez curieux.
Après, ça peut être.
Lyonnais.
Ça peut être quelqu'un.
Quelqu'un
qui connaît bien le sport business voilà, à Lyon et qui n'est pas dans le foot non plus, je sais pas moi.
Et après, ça peut être aussi un Lyonnais qui va être là pour être en représentation. Hein. Et puis derrière.
Ah non, mais là, c'est pas l'idée. Là, PDG, tu prends les grandes décisions.
Est-ce qu'il parlait de Lyonnais pour être le directeur sportif?
Ah non, PDG.
PDG.
Est-ce que.
Le CEO alors?
Un ancien joueur pourrait pas. Non.
Dans l'idée
mais
Bayern.
Pas Marc Keller qui veut. Hein.
Dans l'idée Bayern, c'est possible, c'est difficile quand même. Il faut la formation.
Juninho t'enverra un message énorme aux supporters.
Là, Juninho, tu le remets là avec Aulas dans les parages.
Ouais, non, c'est compliqué.
Juninho, il veut pas.
Aulas, il reste là.
C'est compliqué quand même, franchement. Ouais.
Mais le profil lyonnais qui peut occuper ce poste-là.
C'est bizarre, c'est forcément un poste qui sera en plus très exposé, donc il faut avoir un minimum d'expérience. Attention, être
ouais, PDG. Alors attends, avançons parce qu'il y a d'autres choses. Il dit la Ligue des Champions doit être l'objectif de chaque saison. Donc voilà, il dit si on n'y arrive pas, ce sera clairement un échec.
Il participait évidemment pour l'OL. L'OL doit toujours être en Ligue des Champions.
Et alors sur l'entraîneur, il y a un truc marrant parce qu'il sait qu'il est aussi propriétaire de Botafogo et il dit à Botafogo, on m'a dit de virer le coach plein de fois. Et ben je l'ai pas fait. Moralité, aujourd'hui on est leader. C'est vrai que Botafogo est leader du championnat du Brésil.
C'est bien.
Là, en ce moment, avec que des victoires. La méthode Textor marche à Botafogo. On verra si elle marche à Lyon. Il annonce par ailleurs un gros mercato estival. Il dit : nous voulons investir lourdement dans le recrutement, augmenter les cellules de recrutement, être efficace dans le scouting, dans la recherche de talents. Alors, ça, attention, méfiance.
Mais ça s'improvise pas pour la rentrée, là, c'est déjà bouillant, quoi.
Exactement.
Bah, écoute, ok. Amen, hein.
Après, il y a
ce pour les supporters lyonnais doivent
et ce soir, ils dînaient avec Laurent Blanc.
Doivent kiffer d'entendre
Mister Black.
Ça. Bah, très bien.
C'est sûr que de toute façon, mettre un club en place, surtout de l'ampleur de l'Olympique lyonnais, ça
joue au golf, c'est sûr.
Non, mais il a dit que Laurent Blanc était une légende.
Parce que qu'il avait hâte de tout dîner un dîner avec Blanc, si tu ne connais pas en golf, merde.
Ah, il pourrait parler du Masters.
Daniel, il est.
Bon, voilà l'actu lyonnaise du jour.
Daniel, c'est le Rudiger des éditorialistes, il ne te lâche pas.
Donc voilà les infos lyonnaises du jour. On aura l'occasion d'y revenir demain. Hein. Pas plus de place pour ça ce soir parce qu'il faut qu'on parle maintenant de l'OM. Vous allez voir, l'OM a sorti un communiqué ce soir assez étonnant que je vais vous livrer. Plus le Paris Saint-Germain avec des infos à venir dans l'after. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h50. Daniel Riolo est là. Kevin Diaz également. L'OM n'est pas content. Et le fait savoir. À votre avis, pourquoi ?
Il y a eu le match de dimanche et les décisions arbitrales, et j'ai l'impression qu'il y a quelques dossiers qui traînaient depuis plusieurs semaines. Ouais, ouais.
C'est pas digéré du tout. Je vous lis des parties du communiqué. Après 34 journées, l'Olympique de Marseille constate une accumulation de décisions prises en défaveur du club lors de la saison. Alors déjà, l'arbitrage. On demande une uniformité dans l'application des règles de la VAR, parce qu'ils ont dit, regardez, Suarez, on le siffle, alors que Chotard, exactement la même action lors du match Lyon-Montpellier, on siffle pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ils prennent des exemples comme ça très précis. Ensuite, l'OM n'est pas content concernant le calendrier. Voilà, match planifié le vendredi, alors qu'on avait des joueurs qui jouaient un match international 48 heures avant. La finale de la Coupe de France, voilà, pas content. Et l'OM s'étonne de certaines décisions de la commission de discipline de la Ligue, notamment concernant les engins pyrotechniques et tout. Voilà, donc moralité, l'Olympique de Marseille, ce soir, demande davantage de respect à son égard, en plus de la cohérence des prises de décision futures, afin de garantir l'équité des compétitions. Ce qui sous-entend que l'OM estime qu'il n'y a pas d'équité dans la compétition à son préjudice. Est-ce qu'ils en font trop là ? Est-ce que c'est de bonne guerre ?
Franchement, j'ai été très étonné de ce mail. Je peux trouver, effectivement, je l'ai dit hier soir, que dans le match contre Lens, ce que j'ai dit, je le répète, si moi je suis arbitre, je ne siffle pas, mais je comprends qu'on puisse siffler ça, il n'y a pas énorme scandale.
Le problème, ce n'est pas de siffler, le problème, c'est d'être appelé pour voir cette action.
Peu importe, ça change pas grand chose. On soit pas d'accord, très bien, que ça donne lieu à ce genre de courrier qui ressemble quand même à un énorme chouinage, ça me déplaît. C'est pas l'OM de cette année, c'est pas l'OM de Longoria. Il y a d'autres manières que de se faire pour se faire respecter.
Moi, d'aller
chouiner avec ce genre de communiqué, ça me plaît pas trop.
Petit coup de pression.
Je pense pas que ça marche. Je suis pas sûr que ça marche. C'est pas une méthode qui me plaît beaucoup.
Non, mais c'est clair que Daniel a raison sur le principe. Après, ça s'appelle tout simplement de la frustration.
Parce
que
oui, je peux comprendre.
Voilà, c'est juste de la frustration. C'est l'entraîneur qui râle, qui sait qu'il faut pas râler, mais qui râle quand même parce que il est tellement frustré d'avoir perdu un match sur qu'on veuille ou non. Sur une erreur d'arbitrage qui change énormément, surtout que deux jours après, tu vois que la Juve va peut-être perdre quand même 9 points et donc ne sera sûrement pas en Ligue des Champions et que la troisième place du championnat français ne sera sûrement pas directement qualificative pour la Ligue des Champions. Ça rajoute de la frustration sur la frustration et voilà, c'est quelque chose qu'ils ne doivent, enfin qui n'est pas très classe de faire, mais qui, comme toutes les râleries et toutes les chouineries, et malheureusement, c'est humain.
Voilà pour Marseille. L'actu parisienne maintenant. Je vous livre ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors déjà, le CUP donc a vu le PSG cet après-midi, hein, rencontre entre les supporters et le club, j'en parlais hier. Donc on va plutôt vers un apaisement plutôt qu'un bras de fer qui continue. Voilà. Et puis donc Lionel Messi était à l'entraînement une nouvelle fois. Et on est en mesure, Daniel, de vous dire que ce qu'on sous-entendait hier se confirme, c'est-à-dire que bon, bah, dans l'entourage de Lionel Messi. On a activé tous les leviers juridiques possibles pour faire en sorte que la fameuse sanction ne soit pas effective.
Absolument. Moi, je m'attends bien à en parler demain parce que tu me laisses pas beaucoup de temps pour peaufiner le dossier.
En quelques mots.
Mais en deux mots et demain, on donnera plus de détails. Mais en gros, la version fournie par le PSG depuis hier est totalement fausse. Et d'ailleurs, on a même été surpris parce que je disais encore hier soir que je voyais pas Messi pour si peu, à quelques semaines de s'en aller, engager une procédure juridique, alors qu'en fait, il y a eu une petite guerre juridique rapide sur la semaine dernière, puisque Messi, l'intention du PSG était de le licencier.
J'avais dit Jérôme Bretagne d'ailleurs.
Exactement, parce que il a un courrier avec entretien préalable à licenciement a été préparé. Qu'il n'était pas assez costaud sur le fond. La jurisprudence ne donnait pas raison au service juridique du Paris Saint-Germain, donc ça a été abandonné. En tout cas, une procédure a bien été entamée. Donc c'est pas du tout la version qu'on a voulu nous donner. Le PSG a voulu frapper très très fort, mais au vu des conseillers juridiques de Messi, il n'était guère possible d'aller plus loin. Ça s'est terminé par une négociation. Et la négociation a donné lieu à ce qui s'est passé, à savoir une réintégration rapide, parce que à terme et en cas de procédure qui aurait été plus longue, et surtout que Messi est en fin de contrat, il n'y avait pas intérêt pour le PSG à aller plus loin, parce qu'ils auraient pu être condamnés à des indemnités dans quelques mois à la fin de la procédure. Donc finalement, ça aurait coûté plus cher au PSG. Donc ils se sont rétractés, et les conseillers ont obtenu la réintégration immédiate de Messi après les excuses. Ils ont négocié, d'un côté le PSG a négocié les excuses, pour que Messi revienne et Messi de ne pas pousser très loin la procédure pour faire perdre le PSG. Et la négo, elle a abouti à ce que Messi revienne très vite. Donc quand ça a été une fois de plus un énorme pipeau que nous a vendu la direction du PSG, relayé évidemment par tous les comptes laquais et par ceux qui n'ont pas eu accès à cette information qu'on livre ce soir.
Alors les fameux comptes dont tu parles, on va les inviter.
Mais bien sûr, il faut.
On invite tout le monde, on parle avec tout le monde.
Ils nous expliqueront comment ils travaillent et comment ils sont fournis en info par le PSG. J'ai vu aujourd'hui, par exemple, qu'ils avaient un tas d'infos avant tout le monde. Comme le gars est tout seul chez lui, je pense qu'il sait décrocher le téléphone et le service comme l'appelle et lui dit tiens, dis ça.
Donc en fait, c'est Jonathan qui avait raison vendredi quand il disait que la stratégie de Léo Messi pour ses excuses était
bien. Oui, Jonathan avait été précurseur dans cette histoire.
Absolument. Mais là, nous, maintenant, on a les éléments précis sur ce qui s'est passé. Demain, si on a le temps, ou jeudi, puisqu'on a encore plus de temps jeudi, on pourra clairement même donner les détails juridiques, pourquoi pas avec un avocat, de ce qui s'est passé.
Pendant ce temps-là, le père de Léo Messi dément tout accord avec les Saoudiens. Il dit c'est n'importe quoi. De toute façon, tout se décidera après la fin de la saison, dit-il. Et puis alors Adil Rami, vous savez qu'Adil Rami, il en veut toujours à Jacques Henrière ou à mort.
Il m'a beaucoup fait rire sur Twitter. Il avait bien raison.
Il dit Messi de retour à l'entraînement, c'est logique. Mais il aurait peut-être dû faire Fort Boyard pour une association caritative comme moi pendant sa journée off, parce que ça, c'est faute grave et licenciement. Puisque c'est ce qui est arrivé à Adil Rami. À l'OM.
Il avait gagné son...
Non, il a perdu.
Il a perdu.
Oui, il a perdu au Prud'homme. Il réclamait 4 millions d'euros et il a été débouté, Adil Rami. Et les Prud'hommes ont estimé que la rupture de contrat était justifiée.
Ah oui. Voilà.
Ah, peut-être que les avocats du PSG auraient pu se tourner vers ceux de l'OM à l'époque pour qu'ils leur expliquent comment ils ont fait. Mais enfin bon.
Vaut mieux aller en Arabie Saoudite qu'à Fort Boyard, comme il dit.
En quelque sorte. Sinon, Nantes a donc officialisé ce qu'on vous annonçait hier soir très tard. Hein, Comboiré n'est plus entraîneur. C'est Pierre Aristoui qui va finir la saison sur le banc nantais. Il me reste quelques secondes pour vous parler en deux mots d'Afterfoot.media et de vous parler notamment des contributions qui sont sur Afterfoot.media, parce que tous les jours j'y vais, il y en a des super. Voilà, je salue par exemple Alexis qui nous a fait une belle contribution sur qui s'appelle PSG Fédération, chronique d'un crash annoncé. Je salue Alexandre qui nous a fait la contribution L'After, ma terre à moi, ou Clément, L'After, ma deuxième naissance. Donc, si vous êtes abonné à la revue, vous pouvez vous aussi contribuer, écrire sur le site de la revue afterfoot.media. En plus, maintenant, vous retrouvez les éditos hebdomadaires de Thibaut Leplat. Mais Thibaut, il a des trucs à dire, même quand il n'est pas là. Là, il a publié un petit édito sur Haaland qui s'appelle L'inquiétant Erling Haaland. Je vous le conseille, évidemment, et vous pouvez évidemment en débattre sur afterfoot.media et, par ailleurs, vous abonner à la revue. Le prochain numéro sort le 19 avril prochain. C'est fini pour ce soir. Demain, on sera là à 20h avec la deuxième demi-finale de Ligue des Champions avec vous au 32-16. Salut Kevin, salut Daniel.
À demain.
Et à demain.
RMC, l'afterfoot.